Bonjour et bonne fête nationale à tous, c'est Thibaut Temmermann en votre compagnie pour cette nouvelle demi-heure consacrée à l'actualité internationale. J'espère que nous aurons l'occasion de consacrer une émission à propos de la place du Québec sur la scène internationale, mais cette semaine nous allons plutôt prendre un peu d'avance sur un sujet dont vous entendrez certainement parler, à savoir l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne le 1er juillet. En attribuant le prix Nobel 2012 à l'Union européenne, le comité du même nom a voulu récompenser cette association d'États pour, je cite, « avoir contribué pendant plus de 6 décennies à promouvoir la paix et la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme en Europe ». Elle rappelait la réconciliation franco-allemande, l'entrée des anciennes dictatures que furent la Grèce, l'Espagne, le Portugal, la chute du mur de Berlin, du rideau de fer, pour souligner enfin que, et là je cite encore, « l'admission de la Croatie, l'ouverture des négociations d'adhésion avec le Monténégro et l'octroi du statut de candidat à la Serbie consolide le processus de paix dans les Balkans. » Eh bien, l'admission de la Croatie, nous y sommes presque, et la grande famille de l'Union européenne s'élargit encore avec ce 28e membre, le deuxième issu de l'ex-Yougoslavie après la Slovénie qui était entrée en 2004. Reste à savoir si l'Europe parviendra véritablement à relever ce défi de l'intégration alors qu'elle traverse la crise économique que l'on connaît. Et pour en parler, j'ai invité Gilles Colloutier. Bonjour. Vous êtes consul honoraire de la République de Croatie, ce qui est une bonne chose pour le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Mais en disant cela, je précise immédiatement que vous ne vous exprimez à cette antenne non comme consul, mais comme expert et ancien conseiller stratégique pour les questions d'élargissement européen. Et à ce titre, vous avez notamment conseillé plusieurs États de l'Europe centrale notamment. Donc merci d'être avec nous pour nous partager votre expérience. Certains auditeurs pourraient se demander pour quelles raisons la Croatie veut adhérer à une Union européenne en crise, un point que nous aborderons un peu plus tard dans l'émission. Mais ce qu'il faut préciser tout d'abord, Gilles Cloutier, c'est que cette adhésion, elle conclut des années de négociations.
Elle vient au terme d'une période, d'une séquence de 10 ans entre le dépôt
de la candidature et évidemment la phase d'adhésion, en fait, toutes les périodes de négociation, ensuite de paraphase du et des traités, amènent aujourd'hui, dans une semaine, en fait, dans quelques jours, le 1er juillet, à confirmer une adhésion qui est officialisée, bien qu'elle soit à toute fin pratique depuis quelques années, officieuse.
Quelles sont les conditions que doit remplir un pays qui désire devenir membre de l'Union européenne ?
Il y a des critères géopolitiques, il y a des critères qui ne sont pas définitifs. Si je prends pourquoi la Slovénie, pas la Croatie, il y a quelques années, c'était pour toutes sortes de raisons. Ce qui pénalisait la Croatie, c'était qu'ils avaient un bilan belliqueux dans la région. En fait, ils avaient été entraînés dans toute la mouvance de l'éclatement de la Yougoslavie et aussi de la gangrène qui a miné pendant trop longtemps les pays de l'Europe du Sud-Est, donc les Balkans. Pour adhérer à l'Union européenne, il y a 3-4 phases. Il y en a une qui est l'étape politique, donc c'est la mise en place des instruments démocratiques. Donc toute la gouvernance politique chez les élus, la gouvernance politique des parlements vis-à-vis des populations, donc un mécanisme de démocratie parlementaire. Et il y a aussi, entre guillemets, la transparence des institutions, c'est-à-dire qu'on ne peut plus marcher avec une couverture dans nos activités. Ça, c'est la phase politique. La phase économique, ben, il y a toute la phase d'harmonisation, où les lois en matière économique, le droit des sociétés, la reconnaissance des monnaies,
le droit de l'environnement aussi.
Tous les codes juridiques à saveur économique ou même socio-économique doivent être mis à diapason avec le dispositif d'une part des réglementations et directives européennes pour que l'on dise, ben, on regarde tes lois, on regarde celles du club et bon, tu as fait tes devoirs. Dans le cas de la Croatie, on l'admet même si les devoirs ne sont pas terminés. Et là, il se pose un certain nombre de questions, d'autres pays aussi. Je ne citerai ni Chypre, ni la Grèce, ni quelques autres États qui sont peut-être un peu en déficit à certains niveaux politiques, économiques ou même au niveau du dispositif administratif.
Ce qu'il faut dire en fait, c'est que certes l'Union européenne et ses États membres se conduisent comme une sorte de club, mais ils disent à ces pays candidats, si vous voulez entrer dans ce club, il faut respecter un certain nombre de règles. Mais ça ne se fait pas sans contrepartie. Il y a peut-être le bâton, respecter certaines règles. Alors, j'ai cité notamment le droit de l'environnement, bon, ou le respect des minorités ethniques ou sexuelles. Et après, il y a la carotte, finalement, où on va aider, attribuer des fonds aux pays candidats pour les aider à se réformer et à rattraper le niveau politique, social, économique.
Disons que toute la phase de la carotte souvent précède l'adhésion. Le temps qu'on dit bon, on va t'aider, on va te financer à faire des belles routes pour que tu sois sur l'autoroute européenne, que tu aies un code en matière de protection des minorités. Donc tout est beau jusqu'au jour où on adhère, parce que là, le jour où tu adhères, tu as peut-être moins de revendications, de droits, mais là, tu as des responsabilités. Et de façon générale, la Croatie a été bon élève jusqu'à maintenant.
Dans le cas de la Croatie, est-ce qu'il y a eu des conditions supplémentaires qui ont été fixées que l'on n'a pas fixées aux autres candidats? Je pense notamment à des questions frontalières ou solder l'héritage de la guerre de l'ex-Yougoslavie.
Oui. Alors, le contexte croate, il y avait là un déficit au niveau de la transparence sur l'effort de guerre, si je peux me permettre. Il y avait des criminels de guerre des deux côtés. Le tribunal international a fait son boulot. La Croatie a dû faire ses actes de contrition comme les autres. Bien que, vous savez, elle n'échappe pas non plus au risque d'une certaine vanité, c'est toujours l'autre le criminel. Toi, tu t'es défendu. Au niveau des conflits territoriaux, il y a eu une bagarre entre la Slovénie et la Croatie. On lui dit, ben, nettoyez ce dossier-là, puis ensuite on reprendra. Donc il y a là tout un carnet d'exigences auxquelles, évidemment, les décideurs politiques sont confrontés. La fierté nationale, il y a aussi le souci interne de la réélection, il y a le souci interne d'avoir une mobilisation. Tu ne veux pas antagoniser les gens. Les gens se disent, mais s'il faut sacrifier nos héros pour être membre d'une Union européenne qui est de moins en moins généreuse, parce qu'elle est ruinée. Dans le cas de la Croatie, le référendum a donné 60 et quelques pourcents, 65, 67, référendum mais avec un taux de votation de 40%. Alors ça, c'est l'étape pénultième, donc l'avant-dernière étape.
La dernière étape, ce sera de suite après ce petit extrait donc, musical.
Stoj polje, aj mori ni stoj.
Puristes objecteront que la Bosnie et la Croatie faisaient certes partie de l'ex-Yougoslavie, mais sont deux pays différents et ils auraient parfaitement raison. Mais je ne pouvais vraiment pas résister à l'idée de vous faire découvrir l'artiste bosniaque Amira. La chanson s'appelle Prosecha Sečovka Kumanovka. C'est bien prononcé ?
C'est prononcé comme, voilà. Comme une fois.
Bien, merci Gilles Cloutier. Je rappelle que vous êtes conseiller stratégique pour les questions d'intégration européenne et vous êtes avec nous sur le 5FM et l'émission Le Monde en Partage pour parler donc de la Croatie dans l'Union européenne. Nous parlions tantôt donc des étapes qui ont précédé cette adhésion qui sera effective au 1er juillet, mais il y a déjà cette intégration qui a commencé avec, par exemple, l'élection des députés croates au Parlement européen.
Mmh. Une élection qui a eu lieu au cours de la dernière année. Je ne crois pas que ça fasse tanguer le vaisseau européen d'un côté ou de l'autre.
Non, en effet, ça a été... il y a 12 députés, 6 de gauche, 6 de droite. Donc, ça...
donc tout le monde est servi au plan national. Je ne sais pas si au plan européen ou même international, l'impact soit déterminant.
Mais ça compte.
Oui, une voix compte. Hein.
Je veux dire, ça compte dans le sens où les citoyens croates sont représentés au Parlement européen, qui est tout de même le seul Parlement transnational élu au suffrage universel.
Oui, il y a, et c'est intéressant ce que vous évoquez là, je fais aujourd'hui partie des gens qui ont peut-être un regard un peu critique vis-à-vis la performance de l'outil européen, vis-à-vis l'engouement, parce que c'est intéressant de voir, il y a 10 ans, 15 ans, je me souviens du cas de la Hongrie, par exemple, de la Pologne, de la République tchèque, ou d'autres pays de la région dans lesquels on a eu à réfléchir aussi à une certaine époque. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'était le Graal, joindre l'Europe. Il y a des pays qui ont joint parce que l'Europe en avait besoin. Ils avaient besoin d'une zone tampon. Ils avaient besoin de redéfinir le traité d'Yalta. Quel est l'intérêt de l'Europe de les avoir? Ce sont des États qui sont fragilisés au plan économique. Ce sont des États qui ne sont peut-être pas tous réconciliés avec leur passé ou leurs voisins.
C'est la question que j'allais vous poser. D'ailleurs, c'est que la Croatie, à l'heure actuelle, elle vit sa quatrième ou cinquième année de récession. Le chômage est à 20%, 33% pour les jeunes. Alors, les Croates, est-ce qu'ils se sentent par rapport à ça soulagés ou légèrement frustrés efforts qui ont été menés?
Je pense qu'au niveau, si on parlait de manière officielle, on dirait non, ils sont enthousiastes à l'idée de... on peut être enthousiaste à l'idée d'un élargissement de l'Europe ou d'une adhésion à l'Europe lorsque le vrai test européen, aujourd'hui, c'est la zone Schengen. Tu peux circuler. Mais si tu te mets à circuler, là, l'Europe est devenue un petit peu plus jalouse, la vieille Europe, si l'on veut, ou l'Europe du départ, parce qu'elle devient un peu un centre d'hébergement pour tous ceux qui souffrent des affres de la crise économique chez eux, et où l'État, les États n'ont pas les moyens de relancer l'économie, n'en ont pas les moyens politiques, ou de la volonté politique, parce qu'il y a des sacrifices à faire, et aussi au niveau des fonds, leur pouvoir d'emprunt est limité, l'Europe qui prêtait, donc l'Europe, la Banque Centrale Européenne, on a vu avec les délires grecs, portugais et autres, que cette Banque Centrale Européenne, disons le bas de laine est vide. Et là, est-ce que les autres mécanismes internationaux, on parle du FMI, en fait, tous les autres tontons de la planète, là, est-ce qu'ils seront là pour aider un petit pays comme la Croatie qui n'apporte rien de puissant? Ce n'est pas une puissance pétrolière, ce n'est pas une puissance maritime militaire, donc au plan de la polémologie, donc de l'axe stratégique.
Ce qu'on peut dire, c'est que l'activité économique principale de la Croatie, pour le moment, c'est le tourisme, une activité qui est, par définition, saisonnière.
Saisonnière et qui est très sporadique.
Ce que je voulais vous demander également, qu'est-ce que la Croatie peut apporter à l'Union européenne, à part une 24e langue officielle, le croate?
On contribue comment, quand on est un pays, un peuple, à l'évolution de... Est-ce qu'il y a une originalité croate? Bon, je vais rigoler un peu. La Croate se plaît à dire qu'elle est le berceau de la cravate, et c'est vrai, qui, elle, avait servi de mouchoir aux troupes de Napoléon. Et c'est comme ça que les soldats, ceux qui sont revenus, ont dit « Mais qu'est-ce que tu as dans le cou ? Mais je porte une cravate, hein, une croate, et tout ça, revente. Hein. » Au niveau musical, est-ce qu'il y a une originalité, là ? On va faire l'année culturelle européenne, on va la faire à Zagreb, à Dubrovnik. Oui, il y a là, je crois, une originalité dans certains domaines. Au niveau de la formation académique, il y a de beaux efforts qui sont faits actuellement en Croatie, des efforts de rayonnement, où beaucoup de pays européens envoient leur jeunesse aujourd'hui. On ne vous force pas à diplômer en croate, mais en même temps, ça devient un pôle d'attraction. Et parce que la Croatie, dans l'axe, se situe pas très loin non plus de l'univers ottoman, de l'univers arabe aussi. Elle est sur le passage des tendances mondiales qui inquiètent chez certains, donc les désordres géopolitiques qui entourent la région du Moyen-Orient, mais aussi sur les promesses d'un monde meilleur, qui sait. Alors peut-être la Croatie pourrait-elle, avec un brin d'ingéniosité, elle a su le faire dans le passé, devenir un carrefour des cultures.
Bien, merci Gilles Cloutier. Je rappelle que vous êtes conseiller stratégique pour les questions d'intégration européenne. Tout de suite, la voix jazzy d'Emily Claire Barlow avant celle d'Aline Zalé pour la revue de presse.
Venez donc chez moi, je vous invite. Il y a de la joie chez moi, c'est merveilleux. À côté des étoiles, j'habite. À deux pas du ciel toujours bleu, j'attendrai chez moi votre visite. Là-haut sous les toits, dans mon logis, Tous les jours je reçois. Venez, venez vite, c'est gentil chez moi. Venez si, papa poudre, papa poudre, venez l'été.
C'était Emily Claire Barlow avec Chez moi, dans une version 2012, puisqu'elle était déjà présente sur son précédent album. Là, il s'agit de son nouvel album, donc Seul ce soir, et vous pouvez retrouver cette chanteuse torontoise le 5 juillet à 20h au Théâtre Maisonneuve à la Place des Arts. Et Aline, vous êtes ici chez vous. Bonjour Aline.
Bonjour Thibaut.
Alors, pour cette revue de presse aujourd'hui, de quoi est-il question ?
Alors aujourd'hui, on va partir pour un petit tour du monde des actualités animalières.
Et on commence tout de suite avec une nouvelle qui a émerveillé quelques biologistes chanceux. Une baleine franche a été aperçue au large des côtes canadiennes.
Et oui Thibaut, James Pilkington n'en a pas cru ses yeux. Le biologiste de Pêche et Océan Canada était à bord du navire lorsque la baleine franche a été aperçue pour la première fois, le 9 juin dernier, au large de la Colombie-Britannique. Le quotidien Le Devoir nous rapporte que cela fait 60 ans que cette espèce en voie d'extinction n'a pas été aperçue.
Une nouvelle en effet incroyable, Aline, et pouvez-vous nous en dire plus sur cette espèce ?
La baleine franche, que l'on appelle également baleine noire, est facilement reconnaissable par sa peau noire et sa mâchoire très courbée. Elle peut mesurer jusqu'à 17 mètres et peser 90 tonnes. On la reconnaît également car elle nage lentement et près de la surface. Autre particularité, elle flotte lorsqu'elle est morte. Vous imaginez bien Thibaut qu'il s'agissait donc d'une proie extrêmement facile pour les pêcheurs. Aujourd'hui, il n'en resterait sur Terre qu'autour de 300, ce qui en fait l'une des espèces les plus rares de la planète.
C'est donc plutôt bon signe d'en voir une refaire surface.
Eh bien oui Thibaut, car il s'agit d'un fait scientifique marquant. Pêche et Océan Canada a d'ailleurs précisé que seulement 6 observations ont été confirmées dans les eaux canadiennes au cours du dernier siècle. Toutes les baleines ayant été tuées par des baleiniers, dont la dernière en 1951. Et à la fois, les scientifiques ne sont pas très optimistes quant à la survie de l'espèce. 300 n'est pas un nombre suffisant pour espérer leur survie. Les menaces qui pèsent sur elles restent très nombreuses, même si la chasse est aujourd'hui strictement interdite. Ces baleines rentrent régulièrement en collision avec de grands navires, qui est leur première cause de mortalité. La moitié des décès des baleines noires au cours de la dernière décennie sont imputables à ce type de collision. Également, on apprend que 60% des baleines noires adultes portent des cicatrices causées par les engins de pêche qu'elles sont susceptibles de rencontrer dans leur aire de distribution, de la Floride, où les femelles vont mettre bas, jusqu'au Canada. Dernier facteur qui rentre en jeu comme frein au développement de l'espèce, c'est que leur rythme de reproduction est très faible. Les femelles ne peuvent en effet se reproduire qu'à partir de 10 ans et ont en moyenne un baleineau tous les 6 ans.
Parlez-nous maintenant des robots insectes.
Et oui, il ne s'agit pas d'un mauvais film de science-fiction, mais bel et bien de la réalité. On apprend dans le très sérieux magazine scientifique Science et Vie qu'au terme de 12 années de recherche, des scientifiques de l'université de Harvard aux États-Unis sont parvenus à concevoir un robot insecte miniaturisé appelé Robobi. C'est une première mondiale.
C'est incroyable en effet. Et à quoi ressemblent ces Robobi ?
Ben c'est très simple, Thibault. Pour un poids de 80 mg seulement et une fréquence de 120 battements d'ailes par seconde, ces petits insectes androïdes sont directement inspirés de l'anatomie des mouches.
Une prouesse scientifique, mais quelles en seraient les fonctionnalités ?
Les créateurs de Robobee suggèrent de nombreuses fonctionnalités. On peut imaginer qu'il pourra s'introduire dans des environnements à risque chimique, notamment pour des opérations de surveillance. Là, on peut être sûr que notre petit androïde ne risquera rien. Sinon, on a aussi l'option du Robobee Sauveteur, ou quand les robots sont les amis de l'homme. C'est-à-dire qu'il pourrait être envoyé à l'occasion d'opérations de recherche et de sauvetage. Dernière option, le Robobee pourrait tout simplement sauver notre biodiversité. Doté d'appendices de pollinisation, il pourrait, selon ses promoteurs, tout simplement remédier à l'hécatombe des abeilles, qui meurent par centaines de milliers sous l'effet ravageur des pesticides. Ces petits robots pourraient donc contribuer à la pollinisation des plantes et donc sauver notre planète, tout simplement. On a un peu l'impression de ne pas être très loin du meilleur des mondes d'Huxley.
On va se quitter aujourd'hui avec l'information insolite qu'il ne fallait absolument pas rater cette semaine.
Vous connaissez les bars à chats, Thibault ?
J'en ai une vague idée, mais je vais donner ma langue au chat, je crois.
Eh bien, l'idée est très simple. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un bar dans lequel on peut déguster un thé ou un café tout en caressant un chat. Ce concept, directement importé du Japon, risque de voir le jour à Paris en septembre 2013. C'est ce que nous rapporte l'hebdomadaire français Le Point. Il paraîtrait que les ronronnements du chat ont des vertus médicales. Les professionnels animaliers s'accordent à dire que le stress, l'insomnie ou l'anxiété peuvent ainsi se soigner ponctuellement sans médicaments grâce au ronronnement du chat. Cela s'appelle tout simplement la ronron-thérapie. Elle agirait comme un médicament, mais sans les effets secondaires. Étonnant, non ?
Et qu'en pensent les associations de défense des animaux ?
En France, la Société Protectrice des Animaux, la SPA, est partagée sur la question. Visiblement, c'est elle qui fournirait la dizaine de chats nécessaires pour l'ouverture du bar, mais sous réserve que ceux-ci ne soient pas maltraités et qu'ils ne soient pas forcés d'aller se faire caresser. C'est ce qui se pratique au Japon, où les animaux sont loués pour une heure de caresse.
Un monde véritablement étonnant. Merci beaucoup Aline, voilà qui met fin à notre émission. Merci d'être à notre écoute. Si vous avez envie de réagir à cette émission, de nous faire part de vos commentaires, de peut-être de vos suggestions musicales, n'hésitez pas à nous laisser un message sur notre site internet lemondeenpartage.wordpress.com ainsi que sur notre page Facebook. Et je rappelle que vous pouvez également nous écouter en balade de diffusion ainsi qu'en écoute directe. C'était Thibaut Temmermann à la réalisation du Monde en Partage. Merci encore à notre invité de ce jour, Gilles Cloutier, ainsi qu'à Aline Zallet pour la revue de presse. Dans un instant, vous retrouvez l'équipe du lundi pour le magazine Centre-Ville. Je vous donne rendez-vous bien sûr lundi prochain. Il sera question du Canada et du droit international. Je vous souhaite une nouvelle fois une bonne fête nationale ainsi qu'une excellente semaine sur Radio Centre-Ville.